Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Et nous sommes toujours à Pleuc-l'Hermitage dans le cadre de ce séminaire européen leader qui s'y tient avec beaucoup d'intervenants et nous avons décidé de balayer aussi quelques expériences qui se font un petit peu partout sur les territoires, que ce soit des territoires ruraux ou des territoires urbains. Et notre invité ce matin qui nous rejoint au micro de la matinale est Freddy Poirier. Il est vice-président de Grand Poitiers Communauté Urbaine. Il est plus particulièrement en charge de l'agriculture et de l'alimentation. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Freddy Poirier, on va parler de votre fonction. Alors, en quoi ça consiste au sein de Grand Poitiers, communauté urbaine ?
Alors aujourd'hui, parler de l'agriculture et l'alimentation à Grand Poitiers, c'est évidemment parler de tous les sujets transversaux qui touchent à l'agriculture. Et en l'occurrence, on parle de projet alimentaire territorial, on parle de questions d'irrigation, on parle de qualité de l'eau, de gestion des milieux aquatiques. Donc tous ces sujets-là qui tournent au sujet de l'agriculture et de l'eau comme première denrée alimentaire.
Alors justement, aujourd'hui, l'eau, c'est une préoccupation, on le voit. Alors on a le changement climatique qui est là, ce n'est plus une supputation, hein, on le vit. Est-ce que l'enjeu de demain pour une communauté telle que Grand Poitiers, communauté urbaine, ce sera justement l'enjeu de l'eau, de la préservation, de la distribution de l'eau, et de son coût aussi ?
Sans le vouloir, vous allez effectivement sur l'enjeu numéro un que l'on a à traiter à l'échelle de Grand Poitiers. Numéro un, parce qu'en fait, on a une dépendance très claire sur la qualité de l'eau en termes de distribution. Effectivement, on a un historique de pratiques agricoles qui nous met dans des difficultés aujourd'hui. Et donc, en fait, l'enjeu, notamment du projet alimentaire territorial, c'est d'aller œuvrer auprès des agriculteurs pour repenser la filière, relocaliser, être en capacité de mieux payer les produits agricoles pour que les agriculteurs puissent changer les pratiques.
Alors changer les pratiques, ça passe effectivement peut-être par le circuit court, par une meilleure rémunération. Comment l'Europe intervient à ce niveau-là ?
Alors on a un exemple très concret où aujourd'hui on travaille avec une quinzaine d'agriculteurs en localité directe, une quinzaine, vingtaine de kilomètres, sur un outil de transformation de viande avec l'objectif de relier directement la collectivité avec les producteurs en étant directement opérateur de l'outil auprès des agriculteurs et avec l'idée de maintenir l'élevage sur les terres et donc les prairies, un gage de qualité, qualité de l'eau tout simplement.
Et aussi, on parle de ruralité, là, le fait de conserver des exploitations sur les territoires ruraux et peut-être aussi penser au renouvellement des agriculteurs. Alors quand je dis nos renouvellements, c'est peut-être pas le terme bien choisi, mais en tout cas, beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui prennent leur retraite. Oui. Les jeunes arrivent. Est-ce que c'est aussi l'envie de maintenir ces jeunes et de les faire venir aux territoires ruraux finalement ?
Oui, alors c'est un enjeu majeur pour quasiment tous les territoires agricoles. On n'a pas la prétention de pouvoir agir en direct sur cet enjeu-là, mais on peut l'accompagner. Et avec l'exemple que je viens de vous donner sur l'outil de transformation, on sécurise les exploitations et on garantit quelque part une rentabilité et donc une reprise. Parce que si on n'est pas aux côtés des agriculteurs sur cette affaire-là, c'est des terres qui vont partir sur des systèmes très simplifiés en céréales. Et on sait qu'on peut à terme avoir des difficultés sur le maintien de la qualité de l'eau, notamment.
Alors aujourd'hui, on a des prix qui augmentent. On pense au prix du blé, on pense au prix des denrées les plus basiques. Alors évidemment, là encore, le spectre de la guerre en Ukraine nous rattrape. Est-ce que le fait d'avoir des circuits courts, ça peut aussi permettre de sécuriser l'approvisionnement, l'alimentation pour alors non seulement les zones rurales, mais plus largement des territoires tels que Grand Poitiers, communauté urbaine, ou d'autres territoires voisins.
Alors on a un sujet autour des protéines, en termes d'alimentation humaine comme en termes d'alimentation animale, où à la fois les exploitations, me semble-t-il, doivent gagner en autonomie et donc introduire des protéines sur leur rotation. Et aussi en tant qu'alimentation humaine, où on doit aussi intégrer des protéines végétales, à la fois pour diversifier le menu, mais aussi pour nous permettre de mieux payer la viande que l'on intègre dans nos menus. Donc en fait, il y a une réciprocité qui est intéressante. Et l'entrée légumineuse, gestion de la protéine, est assez pertinente sur le territoire.
Donc avoir ces équilibres, alors équilibre alimentaire, équilibre d'approvisionnement, équilibre des territoires et aussi la ville. Alors j'allais dire, et la ville dans tout ça, pour paraphraser un de mes grands devanciers, mais la ville dans tout ça, finalement, la ville est dépendante des territoires ruraux, les villes s'agrandissent, Poitiers comme d'autres villes. Est-ce que ça apporte d'autres problématiques justement en termes d'approvisionnement, de distribution, d'équilibre territorial ?
Alors on l'a vu dans le moment assez compliqué du Covid, hein, comme dans, j'imagine, tous les territoires, mais cette mixité-là entre le rural et l'urbain a vraiment de véritables vertus, dans la mesure où en fait, les produits sont accessibles très rapidement. On a eu une profession qui s'est très rapidement mobilisée, une profession qui a adapté ses modes de distribution. Il y a eu des points de distribution qui ont été ouverts en direct dans les fermes. Globalement, ça a plutôt bien fonctionné. Et même si le soufflet est un peu retombé, je pense qu'il y a des habitudes qui sont restées et qui ont donné le signal. Et donc ça veut dire qu'on a un rebond à opérer pour pas que cette énergie retombe totalement. Et donc là, je pense qu'en tant qu'élu local, on a des opportunités qu'il ne faut pas laisser tomber. J'en suis convaincu.
Alors l'Europe... Là encore, l'Union européenne fait beaucoup de choses autour de l'alimentation. Est-ce que des fois, c'est pas un peu éloigné de ce qui va, je vais me faire un peu l'avocat du diable, éloigné de ce qui se passe sur les territoires, des expériences, allais-je dire, qui se passent sur les territoires ?
C'est une des difficultés. Je pratique les fonds européens depuis presque une quinzaine d'années maintenant. C'est extrêmement compliqué d'appréhender le fait européen auprès des autres collègues élus. Quand on baigne dedans, en fait, ça devient une évidence. Ce qu'on est en train de vivre en ce moment avec le séminaire, c'est une vraie respiration, au-delà de tous les sujets qu'on aborde. Mais on se rend bien compte que quand on revient sur les territoires, effectivement, il y a une lourdeur, c'est loin. Et j'ai entendu parler tout à l'heure de marketing administratif. En fait, il faut qu'on arrive à vendre cet objet qui parfois est trop éloigné et difficilement appréhendable. C'est un travail permanent, en fait. Voilà.
Les élus des territoires ruraux souvent se plaignent en disant « Oh là là, nous on ne monte pas de dossier européen, c'est trop compliqué, il faut parler anglais. » Parfois, c'est ouais, la barrière de la langue. Et puis, ça prend beaucoup de temps, finalement. Alors, j'ai posé la question à quelques-uns de nos intervenants ici, au micro de la matinale. Est-ce qu'il faut très rapidement simplifier ces dossiers ou alors avoir un étage de gestion alors supérieur? On ne va pas en rajouter un de plus, mais est-ce qu'il faut trouver une solution à ce niveau-là ?
Pour moi, il y a deux leviers. Il y a effectivement l'entrée administrative, mais dans ces soucis-là, c'est souvent du 50-50. Ça veut dire qu'il faut aussi que nous, élus, porteurs locaux, on appréhende ces sujets-là en parlant de projets de territoire et qu'on ait une vue beaucoup plus longue. En fait, aujourd'hui, on aborde le leader comme un tiroir, enfin comme un porte-monnaie. Et on y va parce qu'on a un projet, on y va parce qu'on a quelque chose de spécifique. Il faut aussi qu'on apprenne à gérer de manière un peu plus large, qu'on prenne un peu de recul, que les projets ne viennent du local, mais qu'on les organise et qu'on porte une cohérence. Et si on est ensemble, on pourra financer de l'ingénierie et on amènera de la simplification, je pense, et de la compréhension. Mais tant que l'on vient... pour tirer un tiroir et aller chercher les fonds européens simplement, on aura toujours cette difficulté-là.
Voilà, donc monter un projet, pérenniser aussi des projets, parce qu'il y a des projets qui peuvent être à court terme, mais aujourd'hui on parle beaucoup de projets à long terme, mais si on y ajoute évidemment l'aspect climatique, l'aspect environnement, l'aspect agriculture et alimentation, on voit bien que là on est sur des projets à long terme, ou même à très long terme.
Oui. L'évidence, c'est qu'il faut sortir de son clocher, de son chemin rural, et vraiment appréhender, vraiment prendre de la hauteur, c'est l'essentiel pour qu'on se pose les bonnes questions. Et puis du coup, on peut du coup parler de changement climatique, on peut parler, il y a des questions des migrants, en fait. Si on reste le nez dans le guidon, c'est extrêmement compliqué. C'est des stratégies qu'on doit mener à la bonne hauteur, de manière collective, pour mesurer les bons enjeux. Moi, je vois pas d'autres... d'autres moyens d'y arriver, en fait.
Alors, on voit quand même, avec cette guerre en Ukraine, que les Français, y compris les Français, quand je dis y compris, c'est parce que c'est beaucoup d'urbains, on dit, voilà, nous, on accueille des immigrés, des migrants qui viennent de ces territoires en guerre. Et on a vu les territoires ruraux se mobiliser. Ça a été le cas ici, d'ailleurs, à Pleuc-l'Hermitage, et partout ailleurs en France, bien sûr. Là, on est un peu chauvin, un peu partout en France. Est-ce que, justement, cette solidarité, là aussi, c'est finalement pas l'essence même de l'Europe, l'essence même des territoires?
Si, mais c'est encore une question d'échelle. Ça veut dire que on ne peut être qu'efficace que si on est suffisamment gros. Moi, je suis maire d'une commune de 500 habitants. À mon échelle, je ne ferai rien. Je serai absolument inefficace. Mais on a commencé à travailler sur la mobilisation de la préfecture et de l'Association des maires de France. Et donc aujourd'hui, collectivement, on peut se mobiliser et on peut avoir de vraies solutions efficaces. Mais seul, c'est à ce stade-là de préoccupation, on ne va pas faire grand-chose.
Alors souvent, l'Europe est décriée parce qu'elle est très lointaine, elle n'est pas forcément très concrète pour les habitants des territoires. Comment un élu comme vous, alors quand je dis dans votre petite commune, il n'y a rien de péjoratif dans mon propos, mais dans cette petite commune rurale de 500 habitants, comment faire passer l'idée européenne?
Malheureusement, on n'en parle pas, en fait. Malheureusement, on n'en parle pas. On en parle quand le projet arrive à échéance et qu'il y a une inauguration, tout simplement. Mais au cours de la vie de la commune, finalement, on est assez peu amené à en parler, parce qu'on ne sait pas en parler, parce que nos interlocuteurs n'en ont pas la connaissance et peut-être s'en désintéressent.
Ce n'est pas forcément la préoccupation première.
Ce n'est pas une préoccupation, mais c'est peut-être un défaut. Peut-être qu'il faudrait qu'on introduise de manière régulière des séquences où on parle de l'Europe, de la nécessité de l'Europe. Et c'est vrai que dans la pratique, on ne le fait pas. On ne le fait pas assez, en tout cas à l'échelle communale de Cloué, la commune où je réside.
Alors, Cloué,
on
n'en
parle pas.
Cloué. Voilà. Donc vous êtes conscient.
Dans la Vienne.
Dans la Vienne, vous êtes conscient qu'en passant au micro de Bretagne 5, tout le monde va vouloir habiter chez vous. Hein. un dernier mot, Freddy Poirier, autour de l'Europe. On voit une Europe aujourd'hui protectrice. Ça nous ramène, là encore, à la grande actualité, comme l'on dit. Une Europe protectrice, une Europe qui donne de l'argent pour les territoires, même si c'est très complexe, on l'aura compris. Est-ce que finalement, c'est un petit peu le pendant de ma question tout à l'heure, finalement, est-ce que les jeunes générations, eux, sont plutôt très européens et amènent dans les campagnes, ces jeunes générations, une autre vision de l'Europe, ou parfois même cette vision de l'Europe?
Franchement, j'ai du mal à répondre à cette question. J'ai de temps en temps des propos peut-être parfois excessifs sur la manière dont ils appréhendent ces sujets-là. J'ai trouvé éloigné, en fait. Mm-hmm. Moi, j'ai trouvé éloigné, alors non seulement de la vie communale, alors peut-être qu'on est très mauvais, mais peut-être qu'on n'a pas assez de moments d'échange, peut-être que les deux années de Covid, là, nous ont éloignés. Mm-hmm. On n'a plus de moments de convivialité, c'est assez compliqué. Mm-hmm. Donc il va falloir qu'on remette ça en route. Sur la question européenne... Individuellement, ma fille est en âge de voter aujourd'hui. Elle pose des questions parce qu'il y a l'élection et puis il y a l'Ukraine, donc on est amené à en discuter. Mais c'est parce qu'il y a des sujets qu'on en parle. Mais c'est vrai qu'au fil de la vie, au fil de nos vies, encore une fois, on n'en parle pas assez. Et faudrait introduire des séquences, des moments. Mais on n'en parle pas assez, à l'évidence.
Un dernier mot, c'est aussi une question d'éducation. Il faudrait introduire un module européen dans la scolarité aujourd'hui et dès le plus jeune âge.
Oui, certainement qu'il faudrait... alors, je regarde de loin le programme, hein, très honnêtement, mais il faut sans doute restructurer. Il se trouve que j'ai quelques heures d'enseignement. On voit bien qu'il y a des choses qui se perdent. Ça fait un peu arrière-garde, mais c'est du ressenti. Donc peut-être qu'il y a des modules sur... on avait de l'éducation civique à l'époque. Peut-être qu'il faut renforcer ces échelons-là et que nous, on se l'approprie aussi, encore une fois.
Voilà. Et puis, parler de l'Europe, c'est important, justement, dans les territoires ruraux. On le voit aujourd'hui et on le voit à travers ce séminaire auquel vous participez. Et je vais vous rendre, d'ailleurs, tout de suite aux tables rondes, Freddy Poirier. Je rappelle que vous êtes vice-président de Grand Poitiers Communauté Urbaine et vous êtes en charge de l'agriculture et de l'alimentation. Et vous êtes venu au micro de Bretagne 5 ce matin. Je vous en remercie. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci à vous et au revoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.